avec l'humour, le 24 mai à Clermont-Ferrand et le 23 juin à Lyon.
Au casting, il n'y a que du bon et même de l'excellent.
Toutes les infos sur franceinter.fr.
France Inter,
première radio de France.
Bonne soirée avec nous sur France Inter, il est 19h. Et voici le journal avec vous, Hélène Philly. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Les ambitions de Donald Trump, s'il gagnait un second mandat, déployer l'armée pour renvoyer les migrants, laisser faire les interdictions d'avorter, révoquer les procureurs qui déplaisent. Un long entretien au magazine Time révèle un programme encore plus dur que celui de 2016, vous l'entendrez. Nous serons aussi à New York, dans le Brooklyn de Paul Auster, le quartier où l'écrivain qui vient de mourir vivait. L'actualité, c'est encore les manifestations du 1er mai où les profs saluent la marche arrière du gouvernement sur le non-paiement des heures supplémentaires. Très politique aussi cette journée, Raphaël Glucksmann chahuté à Saint-Étienne. Nous sommes aux Philippines, écrasés par la chaleur et dans le stade de Dortmund en Allemagne avant la demi-finale de Ligue des Champions face au PSG. Match aller ce soir, juste après ce journal. Le téléphone sonne, se transforme en foire aux inventions. Appelez-nous au 01 45 24 7000.
France Inter.
If he wins, c'est le titre qui barre la une du Time cette semaine. S'il gagne à la présidentielle de novembre prochain, quel sera le programme de Donald Trump? Le magazine en a longuement discuté avec le candidat républicain qui tire une leçon de son précédent mandat. Il a été trop gentil. Voilà qui donne le ton. Bonsoir Frédéric Saïs.
Bonsoir.
Donald Trump promet de durcir encore sa politique et il ne cache pas sa radicalité.
Oui, ne vous fiez pas à la couverture du magazine. Photo noir et blanc, Donald Trump main croisée sur les genoux comme assagi. Dans les pages intérieures, la tonalité est tout autre. Sur l'immigration, par exemple, le programme est plus radical que jamais. Construction de camps à la frontière, mobilisation de l'armée et de la police, arrestation et expulsion de 11 millions de migrants. Et qu'importe si la loi américaine interdit d'utiliser l'armée contre des civils. Ce ne sont pas des civils, ce sont des clandestins, répond le candidat républicain. Sur l'avortement, interdiction ou pas, Donald Trump assume de laisser la décision à chacun des États. Ce n'est pas mon sujet, dit-il. Au programme également un tour de vis commercial, taxe de 10% sur toutes les importations. Donald Trump menace également de ne plus aider l'Ukraine. Je cite, « Si l'Europe ne met pas autant d'argent que nous, égare aux alliés qui ne dépensent pas assez pour leur propre défense, en Europe comme en Asie, Washington ne les aidera pas en cas d'invasion, affirme Trump. Si tu ne payes pas, tu seras seul. »
Et l'ancien président projette clairement de bafouer la séparation des pouvoirs.
Et sans complexe, il n'exclut pas de renvoyer les procureurs qui désobéiraient à ses ordres. Il dit aussi vouloir gracier les émeutiers qui ont envahi le Capitole après sa défaite. Il les surnomme d'ailleurs les patriotes du 6 janvier. Donald Trump menace même d'un procès son adversaire, le président Joe Biden, qu'il accuse de crimes sans jamais préciser lesquels. Alors en face, un peu interloqué, le journaliste lui fait remarquer que tout ça est à l'opposé des grands principes démocratiques et plus proche d'une dictature que rejettent les Américains. Au contraire, répond Trump, je pense que beaucoup de gens aiment ça.
Éclairage signé Frédéric Saïs, les États-Unis où la guerre menée par Israël contre le Hamas agite toujours les campus jusqu'à ces affrontements à l'université UCLA de Los Angeles. Un groupe de personnes masquées s'en est pris à un campement d'étudiants défendant la cause palestinienne. Il y a quelques heures, la police de la ville déployée sur le campus.
Un 1er mai très politique en France.
À quelques semaines des élections européennes, le jour choisi par le Rassemblement National pour dévoiler sa liste complète. On en parle dans un instant, mais d'abord l'image d'un candidat empêché à Saint-Étienne. Raphaël Glucksmann n'a pas pu participer au cortège, chahuté par une dizaine de militants. Ils lui ont jeté injures et peintures. Bonsoir Laurence Perron.
Bonsoir.
Et pour le candidat PS Place Publique, la France Insoumise porte une part de responsabilité dans ce qui s'est passé.
Oui, il l'a dit. Puis face à la presse, le candidat du Parti Socialiste n'a pas réitéré nommément ses accusations contre LFI, mais entre les lignes, c'est assez clair. L'outrance verbale mène à la violence physique, dit-il, dénonçant des campagnes de calomnie orchestrées sur les réseaux par certains partis politiques. Il considère être la cible de groupes violents, ultra frustrés par la dynamique qu'il est en train de créer. Ce sont pourtant les jeunes communistes de Loire qui revendiquent, vous les avez entendus d'ailleurs sur France Inter, à 13h, avoir chassé, je cite, un anticommuniste vendu à l'impérialisme. Place Publique, Jean-Luc Mélenchon a tenu à dédouaner les siens.
Je ne suis pas d'accord avec l'expulsion qui a été organisée par le groupe qui la revendique, la jeunesse communiste, de monsieur Glucksmann à Saint-Étienne. Mais je note qu'il aurait dû réfléchir avant de parler. Il n'est plus un rassemblement où nous soyons agressés. Manon Aubry, notre tête de liste, doit redoubler les précautions. Ça suffit de s'indigner à géométrie variable.
Le chef de la France insoumise réclame à présent des excuses. Par expérience, et cela s'est intensifié à la fin du quinquennat Hollande, dans les manifestations, nombreux sont les politiques chahutés par les militants qui estiment que la gauche de gouvernement les a trahis.
Laurence Perron est plus au sud, à Perpignan. Le Rassemblement national a donc réuni plus de 2000 personnes pour une victoire qu'il rêve déjà acquise. Élodie Forêt sur place.
Serein, les militants du parti lepéniste se déhanchent sur une musique festive. Confiance aveugle dans la victoire, vote d'adhésion ou vote anti-Macron.
Je prends le cul contre Macron, donc voilà.
Gérard, très en colère depuis la crise Covid.
Vous comprenez, moi le vaccin, c'est pas mon fort. Donc rien que ça déjà.
Lui ne connaît aucun nom des 34 personnalités qui montent brièvement sur scène.
J'appelle Thierry Mariani. Il a fait le choix de nous rejoindre. Mathieu Vallet.
Rapidement présenté, car l'essentiel n'est pas là pour Marine Le Pen et Jordan Bardella. Il s'agit de lutter contre le risque de démobilisation. Alors les deux têtes du parti insistent.
Nous devons donner à ce pouvoir la plus cinglante sanction électorale.
Ne vous dispersez pas sur des listes patriotes qui ne peuvent pas gagner.
Je vous tends la main, lance Jordan Bardella aux électeurs d'Éric Zemmour. Puis, pour mobiliser son camp, cible les ennemis. Emmanuel Macron, l'extrême gauche ou les médias qui enquêtent sur lui.
Après complément d'enquête, revoilà complément d'enquête. S'en prendre au premier parti d'opposition avec les moyens du service public payés par vos impôts, c'est cela la conception de l'indépendance.
Un discours plus national qu'européen que la tête de liste RN assume, concluant sur une promesse aux électeurs de Marine Le Pen. La victoire, dit-il, n'est plus très loin.
Reportage à Perpignan, Élodie Forêt. Et l'on retourne un instant dans les défilés du 1er mai. 200 000 manifestants dans toute la France, selon la CGT, un peu plus de 120 000 selon le ministère de l'Intérieur, et des cortèges aux revendications diverses, entre messages pour la paix et mots d'ordre sur les salaires, chez les enseignants particulièrement. On vous en parlait dès hier. Le ministère de l'Éducation avait en tête de supprimer un tiers des heures supplémentaires des profs, utilisées notamment pour des révisions en fin d'année, et ça a provoqué un tollé, racontait tout à l'heure dans le cortège Sophie Vénétité, la secrétaire générale du SNES-FSU.
Ça fait 48 heures qu'il y a beaucoup de colère dans l'éducation nationale, dans les collèges et les lycées, parce que les collègues ont découvert du jour au lendemain qu'on rayait d'un trait de plume tous les projets qu'ils pouvaient porter pour la fin de l'année. Ça a vraiment été ressenti comme une forme de mépris supplémentaire, une marche franchie dans le mépris, et c'est ça qui a alimenté cette colère qu'on a entendue effectivement dans les cortèges aujourd'hui. Et puis le coup de théâtre d'aujourd'hui, c'est de voir le communiqué du ministère de l'Éducation nationale.
En pleine manifestation.
Ouais, moi j'ai décroché en pleine manif pour m'entendre dire que ces heures supplémentaires, ces moyens-là ne seraient pas retirés aux établissements pour le troisième trimestre. Donc c'est un retournement assez improbable. Ça montre que la pression qu'on a pu mettre les a mis dans un état très fébrile, mais ça pose aussi la question de savoir s'il y a encore un pilote dans l'avion dans l'éducation nationale. Il y a une forme de soulagement de se dire que en fait, on va juste pouvoir faire notre travail.
La secrétaire générale du SNES-FSU avec Claire Chaudière à Paris, où quelques tensions ont émaillé le début de cortège. Plusieurs policiers blessés, 45 personnes interpellées. À Nantes aussi, des Black Blocs s'en sont pris à des magasins en marge du défilé.
En Asie, ces images de rues vidées de tout habitant.
Désertées parce qu'écrasées de chaleur au Vietnam, comme en Birmanie, en Inde, au Bangladesh, l'Asie du Sud-Est, étouffent avec des températures qui dépassent les 45 degrés, bien sûr. Souvent, les hôpitaux sont en état d'alerte. Des milliers d'écoles fermées, comme ici, aux Philippines. Le reportage de notre correspondante sur place, Juliette Pietraszewski.
Une chaleur accablante et des grilles d'écoles publiques fermées. À proximité d'un petit groupe d'étudiants posés à l'ombre, quelques enfants âgés de 7 et 8 ans privés d'école jouent ensemble, sous la surveillance de leurs aînés.
Ce sont les neveux de notre camarade de classe. Si les températures augmentent vraiment trop, ils ne vont pas à l'école. Si les températures redescendent, ils y retournent.
Avec 39 degrés de ressenti aujourd'hui, Jasmina, étudiante, se rend à l'université en longeant les murs, le visage marqué par des résidus de crème solaire.
Aujourd'hui, non, ce n'est pas supportable. Même avec de l'entraînement, vous savez, avant les vagues de chaleur n'étaient pas aussi douloureuses. Mais là, maintenant, ça vous brûle la peau. C'est pour ça qu'on se met à des endroits comme celui-là, bien à l'ombre.
Du côté de la caserne de Cebu, les pompiers redoublent de vigilance, explique l'un d'entre eux.
Le vrai problème, c'est l'eau. On fait en sorte d'avoir assez d'eau en quantité, au cas où il y aurait une urgence et un besoin de répondre à une alarme incendie. L'an dernier, on atteignait seulement les 30 degrés et plus, mais là, c'est 40 degrés et plus.
Et pour l'heure, pas d'accalmie prévue pour l'instant pour les Philippines.
Reportage Juliette Pietraszewski au Kenya. Ce sont les pluies diluviennes qui sont meurtrières depuis mars. Près de 200 morts et une centaine de touristes se retrouvent coincés dans une réserve du sud-ouest du pays ce soir. En France, ce sont de gros orages qui vont traverser le pays, du Calvados à Lyon dans la soirée. 19 départements sont en vigilance orange, dont l'Île-de-France. Et voici une expérimentation qui pourrait faire des petits au rayon santé, celle du médecin traitant renforcé, des généralistes qui sont incités à prendre en charge leur patientèle habituelle et des cas complexes en plus, en échange d'une rémunération au forfait. Le dispositif testé depuis 4 ans semble bien marcher. Victor Dolan l'a constaté dans ce cabinet du réseau Ipso à Paris.
Floriane, 35 ans, trouve des disponibilités très vite dans ce cabinet. Son médecin traitant, Marie Benck, réserve en effet des créneaux exprès pour ce nouveau dispositif.
Alors, je vous écoute. Je viens pour mon renouvellement de traitement contre la migraine.
Consultation classique, sauf qu'à la fin, la généraliste pose toute une série de questions supplémentaires.
Vous n'êtes pas mis à fumer ?
Non.
Non. L'alcool, ça va être à quelle fréquence ?
Très peu, pas ouais. Plus d'une fois par semaine, voire moins.
Question aussi un peu bizarre, mais que j'essaye de poser systématiquement à toutes les femmes. Est-ce que ça arrive parfois qu'il y ait des petites fuites au niveau urinaire ?
Non.
Pas un centime déboursé à la fin de la consultation, tout est pris en charge par l'assurance maladie. Floriane apprécie surtout la relation de confiance avec son médecin.
C'est beaucoup plus de questions, beaucoup plus de temps avec le médecin. Et ça permet, je trouve, d'être mieux soigné. Quand on a plus confiance, on dit plus les choses aussi.
La généraliste apprécie également, surtout pour les patients plus complexes qui nécessitent du temps.
À l'acte, on peut être tenté de faire que des consultations rapides. Là, finalement, on va être mieux rémunéré. Plus le patient est complexe, mieux on va être rémunéré. Ça nous insiste aussi à investir sur la prévention.
14 000 patients déjà intégrés dans cette expérimentation et les résultats sont là. De bien meilleurs taux de dépistage pour le cancer colorectal et celui du col de l'utérus. 2 fois moins de lapins posés aux médecins et ces derniers gagnent 20% de plus que leurs confrères en libéral.
Notons que les syndicats de médecins libéraux ne veulent pas de ce paiement au forfait. Les négociations avec l'assurance maladie toujours au point mort. Ils sont montés trop vite, trop tard dans le train, juste avant le départ. 3 enfants déposés par leurs parents à Lille. Samedi soir, ils allaient à Rennes. Dans la précipitation, la SNCF les a pris pour des voyageurs clandestins, les a obligés à descendre à Roissy et les a remis aux forces de l'ordre. 3 enfants qui ont 13, 11 et 8 ans. La compagnie renvoie la faute sur les parents. Bonsoir William Delesseux.
Bonsoir Hélène.
Et ça les met très en colère.
Oui, les familles racontent que le contrôleur avait tout de même validé le billet des enfants, les autorisant à monter malgré tout. Mais à l'approche de Paris, une fois le train parti, le ton a changé. Le contrôleur va parler aux frères de Jeanne, 11 ans, Louis, âgé de 13 ans.
Il a dit que le billet était invalide. J'étais stressé parce que on allait sortir loin de nos parents. Il y a la police qui est montée dans le train pour venir me chercher.
À Roissy, donc, pas question d'aller à Rennes retrouver leur mère. Les voilà débarqués avec une fillette de 8 ans. Officiellement, les 3 enfants n'ont pas été pris en compte par le service d'accompagnement. Il faut être sur le quai 1 heure avant le départ du train, mais un accident sur la route de la gare les avait ralentis, explique Émeric Lavanchy, le père, qui tente de nouveau de raisonner le personnel de bord.
Ils sont en ligne avec le père des enfants, la mère des enfants. Ils avaient les deux en ligne dans la rame. Je trouve ça bizarre qu'on puisse pas trouver une solution plutôt que débarquer des enfants et d'emmerder tout le monde. J'ai absolument rien contre la SNCF. Mes enfants ont voyagé, ça fait des années qu'ils voyagent avec Junior & Co. On n'a jamais eu de problème.
Et le père va les chercher en voiture au commissariat. Ils retrouveront leur mère en région parisienne. Finalement, la SNCF regrette que le voyage ne se soit pas déroulé dans la sérénité, mais assure avoir rempli ses devoirs pour protéger les enfants.
Merci William Delesseux. Et sur les routes, tant qu'une portion de la 13 restera fermée, l'État prendra en charge la moitié du prix du péage de l'A14, qui peut être une solution de repli, mais qui coûte cher, un peu plus de 10 euros pour le tarif normal. Il faudrait être plusieurs dans la voiture pour avoir droit à la ristourne.
Il est 19h14, Hélène, l'Empire Muliez au cœur d'une enquête au long cours.
Le propriétaire d'Auchan, le roi Merlin ou encore Décathlon soupçonnés de fraude fiscale. Plusieurs héritiers de cette famille du Nord ont été mis en examen selon l'agence France Presse, confirmant une information de Libération. L'enquête, qui dure depuis plusieurs années, se plonge dans un montage pour le moins complexe, Agnès Soubiran.
Pour qualifier cet entre-là de dizaines voire de centaines de sociétés imbriquées les unes aux autres, les membres de l'association familiale Muliez aiment employer employé le terme de galaxie, mais c'est une véritable nébuleuse où le secret et la discrétion sont des règles d'or, mises au service de la préservation du patrimoine familial, magnifiée par Gérard Mullier en 1961 avec la création d'Auchan. Il est aujourd'hui à 92 ans le seul à se permettre l'extravagance de vivre dans un château près de Lille. Mais toutes les familles connaissent leur lot de difficultés et c'est après le divorce d'une des héritières où l'ex-mari ne pouvant plus prétendre à rester dans l'Empire s'est estimé floué et a lancé les premières alertes sur des flux financiers suspects. L'enjeu aujourd'hui est de savoir si la ligne rouge a été franchie entre l'optimisation fiscale légale à travers des holdings basés en Belgique et au Luxembourg et la fraude véritable, illégale. Le dossier est sensible et suivi par le parquet national financier avec l'aide de la direction chargée du contrôle fiscal des grandes entreprises. Leurs conclusions sont attendues dans les semaines qui viennent. Les membres de l'association familiale Mullier se disent de leur côté sereins.
Agnès Soubiran, c'est une aventure de 12 ans qui se termine. Laurent Lafitte quitte la Comédie française. L'acteur y était pensionnaire depuis 2012. Trop pris, dit-il, par ses projets personnels, notamment au cinéma. Sans moi, l'avenir se débrouillera très bien. C'est le personnage principal du dernier roman de Paul Auster qui se dit cela, pas si sûr si l'on pense à l'avenir sans le plus francophile des écrivains américains, Paul Auster qui vient de mourir à 77 ans. Loïc Loury a arpenté Brooklyn aujourd'hui, son quartier de New York.
Dans une interview, Paul Auster parlait de Park Slope comme l'un des endroits les plus démocratiques et tolérants sur Terre.
Oh, yeah, definitely.
Amy, une habitante du quartier, acquiesce, affectée par la mort de l'auteur.
Je ne pouvais pas le croire, il n'avait que 77 ans. J'ai lu la plupart, si ce n'est tous ses romans, je les adore. Moi aussi, je suis de Brooklyn. Je vis dans ce quartier où il y a beaucoup d'écrivains. Paul Auster venait du même moule.
Un peu plus loin, dans cette librairie historique, les livres de Paul Auster sont en vitrine. Il restait un pilier de la communauté, dit Samuel, l'un des vendeurs.
Il était incontournable dans le quartier, incontournable dans cette boutique. Il était vraiment un soutien de cette librairie, parfois directement impliqué, et évidemment une présence à Park Slope.
Tout en reconnaissant qu'il ne restait surtout qu'une idée aujourd'hui du Brooklyn de Paul Auster.
Comme beaucoup de choses dans cette ville, ça existe toujours d'une façon ou d'une autre. Mais ça disparaît aussi de beaucoup de façons. Park Slope, en tant que quartier, a beaucoup changé ces 10 dernières années. Mais bon, je dirais qu'il reste quelque chose de Paul Auster.
La trace de l'écrivain avait commencé à s'effacer avant sa mort, même s'il reste le saint patron, dit le New York Times, de la littérature de Brooklyn. New York, Loïc Loury, France Inter.
Paul Auster, que vous allez pouvoir réécouter en longueur dans moins d'une heure, rediffusion de L'Heure Bleue, sa rencontre avec Laure Adler en 2018. Et une heure plus tard, le rendez-vous que les supporters du PSG ne rateront pas, c'est cette demi-finale de la Ligue des Champions face à Dortmund. Un adversaire à sa portée, serait-ce l'année du PSG. Pour cette première manche, les Parisiens se déplacent et il leur faudra affronter, en plus des joueurs, le célèbre mur jaune, tribune mythique du Borussia. Bonsoir Xavier Monferrand.
Guten Abend, Frau Philly.
Guten Abend. Les connaisseurs ont l'habitude de ce mur et ils ont l'habitude de dire que c'est le 12e homme de l'équipe.
Oui, c'est vrai. Et ce 12e homme, c'est une expression qui est un peu galvaudée, mais là, c'est particulièrement le cas. C'est une tribune mythique, ce Gelbewand, cette Süd tribune, cette tribune sud de Dortmund. C'est une référence dans le football européen. Elle est juste devant moi, sous mes yeux. Et sans vous mentir, elle est déjà presque toute jaune. Elle est en train de se remplir jusqu'en haut. C'est incroyable, c'est 30 000 personnes dans une seule tribune, debout comme un seul homme. C'est presque si on mettait tout le stade Bollaert dans une même tribune. C'est vous dire, forcément, de l'autre côté, dans la tribune des supporters du PSG, il y a déjà des téléphones qui se braquent sur la tribune pour faire des photos. J'ai rencontré quelques supporters parisiens avant de rentrer dans le stade. Écoutez ce qu'ils pensent de ce Gelbewand, de ce mur jaune.
Bah, plus grande tribune d'Europe. On va s'éclater, on va les observer, les admirer. Donc on adore.
Franchement, avec le Unilever Wall Cologne au début du match, ça va être très impressionnant. Mais attention à nos ultras. Ils sont là quand même. Ils sont là quand même. Ils vont être présents, on va les entendre.
Faut pas stresser, c'est des joueurs qui sont expérimentés, qui ont l'habitude de jouer à l'extérieur aussi. Ça devrait le faire.
Oui, ça devrait le faire pour les Parisiens. Très confiants, hein, c'est vrai, avant ce match, favoris les Parisiens. Mais du côté des supporters de Dortmund, en tout cas, et du Gelbewand, on nous promet une bombastische Stimmung. Une ambiance ça doit faire explosive. Mal.
Bah, j'ai envie de vous dire, viel Glück, Xavier Monferrand, merci à vous.
Tous ces gens qui ont fait allemand première langue.
Coup d'envoi du match tout à l'heure à 21h. Puisqu'on parle football, Fabienne, oui. Rappelez-vous qu'il y a 120 ans, jour pour jour, un autre match d'importance se jouait.
Le tout premier match international, c'était entre la Belgique et la France. Il s'achèvera sur un nul. 3-3 quand même, on dit que ça a été un match spectaculaire. Et la FIFA, la Fédération Internationale de Foot, naîtra 3 semaines plus tard.
J'ai envie de dire muchas gracias. Hasta mañana. Allez, Hélène, merci beaucoup. Dans un instant, on parle d'invention et d'innovation. C'est le téléphone sonne, la météo juste avant.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Élodie Calac, très agitée ce soir et cette nuit pour la météo.
Oui, avec des pluies particulièrement soutenues du nord du centre-val de Loire à la Normandie où une vigilance orange est en cours. Attention aussi aux orages, ils se développent en ce moment du Doubs vers Lyon. Ils seront parfois violents jusqu'en milieu de nuit. Vigilance orange de la Bourgogne vers l'Île-de-France, les Hauts-de-France et les Ardennes avec de la grêle, de fortes rafales de vent et des pluies parfois intenses.
Et demain, ça reste pluvieux.
Oui, les pluies persisteront sur les deux tiers est du pays. Alors des pluies plus espacées hein, vers la Normandie, la région parisienne, le nord de la Seine. Plus marquées tout de même du massif centrale et du centre-val de Loire vers les Alpes et le Jura le matin, puis sur les régions de l'Est l'après-midi. Il neigera sur les massifs du Sud. Il y aura du vent en Méditerranée jusqu'à 70 km à l'heure. De la Bretagne aux Pyrénées et au Roussillon, quelques averses encore, mais des éclaircies se dessineront. Il fera souvent 6 à 12 degrés le matin et l'après-midi, il fera trop frais partout. 10 degrés à Aurillac, 12 à Dijon, à Lyon, 14 à Amiens, Paris, Brest, Marseille, 16 degrés à Nancy, Angers, Agen et 19 degrés à Strasbourg. Il faisait 28 degrés cet après-midi.
Eh bien, dites-moi, Élodie Calac, de météo France, merci.
France Inter présente
Xi Jinping, le prince rouge, le podcast sur l'histoire réelle et méconnue du maître de la Chine.
Dominique André.
Qui connaît l'enfance dorée du président chinois? Comment a-t-il survécu à la révolution culturelle? De la mort de Mao au pouvoir suprême, parcours calculé d'un homme puissant qui, depuis 2012, dirige 1/6 de l'humanité.
Xi Jinping, le prince rouge.
À télécharger sur l'appli Radio France et franceinter.fr.
Il est 19h, presque 22.
France Inter. Fabienne Synthèse.
Avant, il y a eu l'aspirateur, la semelle de crêpe, le moulin à légumes, le stylo bille. Maintenant, ceux qui déposent le plus de projets sont des champions de l'innovation. Hein. Stellantis pour l'automobile, Safran pour les moteurs, Valeo, le CEA, etc. Est-ce que le géotrouve-tout existe encore? Ah, sûrement, mais de moins en moins. L'invention s'appelle surtout l'innovation. Les bricoleurs qui sortent des trucs de leur garage sont des ingénieurs souvent très capés. Il n'empêche, le principe reste le même. Une bonne invention, c'est quelque chose auquel personne n'a pensé avant. Et c'est collé à son époque, c'est répondre à un besoin. Le Grand Prix du président du concours Lépine l'année dernière était un frein pour fauteuil roulant. Et là, on se dit, ben, c'est pas si compliqué. Pourquoi personne n'y avait donc pensé avant? Et c'est exactement ça, la bonne invention. Le concours Lépine, pendant la Foire de Paris qui commence maintenant, reste pour ça une vitrine inégalée. Et on vous expliquera d'ailleurs d'où viennent ceux qui concourent, quel genre de projet ou d'invention, que deviennent aussi ces projets. C'est pour ça qu'on a eu envie de cette émission. Pour vous qui êtes ingénieur, qui imaginez notre futur et nos besoins, pour vous, la start-up qui inventait tout le temps, c'est même votre métier, pour vous qui avez l'esprit pratique. Un projet, ça se défend, ça se dépose, surtout 15 556 l'année dernière à l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle, ça fait beaucoup par jour, dites-moi. Le concours du concours Lépine à l'INPI, de la bonne idée à son débouché industriel. Si vous avez une idée, déposez-la et appelez-nous juste après. Peut-être que vous êtes cet indispensable, peut-être que vous avez inventé cet indispensable qu'on aura tous dans nos cuisines, nos voitures, nos sacs ou nos armoires et qui nous fera dire, mais bon sang, comment on faisait avant? C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
Ariel, bonsoir.
Bonsoir, merci beaucoup de prendre mon témoignage.
Soyez la bienvenue Ariel, on vous écoute.
Bon, ben déjà un grand merci à la famille Doré qui est sur le concours Lépine et qui a un dévouement et une implication incroyable. En 2012, nous sommes une TPE qui a gagné le concours Lépine. Pour une invention, comme vous l'avez dit, Madame Synthèse, toute simple, ouais. Pourquoi n'y avait-on pas pensé avant nous? C'est un outil pour housser et déhousser les couettes qui a d'abord été inventé pour les femmes de chambre, et c'est en lien avec votre émission de ce matin sur les femmes de chambre, ouais. Et qui un jour se passera dans le B2C, c'est-à-dire pour la clientèle des particuliers. Une fois qu'on a gagné le concours Lépine...
Mais alors attendez, qu'est-ce que vous avez inventé? C'est quoi ce que vous avez inventé pour les femmes de chambre?
Comme vous le disiez, un outil qui est comme une paire de mains, qui est fixé pour les aider à hausser et déhausser les couettes et qui est fixé sous chaque lit.
Ok.
Parce que c'est vrai que housser des couettes, c'est extrêmement long et ennuyeux, on est d'accord avec ça.
Et fatigant, c'est après beaucoup de réflexion, parce que l'inventeur du fixe à couettes, qui est mon mari, n'est pas un ingénieur au départ, mais c'est quelqu'un qui adore observer, créer, on l'appelle le géotrouve-tout. Ah. Il aime composer.
C'est donc lui le dernier.
Il aime qu'on lui pose un problème, il aime trouver la solution, il l'a trouvé. C'est vraiment tout simple, c'est comme une main qui est à la disposition de la femme de chambre. Voilà. Et vraiment, un immense merci au concours Lépine, qui nous a permis derrière de monter une structure. Bien sûr, on a déposé tous les brevets, bien évidemment, et on les renouvelle tous les ans. C'est un gros boulot et on est très heureux de l'avoir fait, parce que comme c'est une bonne idée, nous avons été copiés.
Ah ben voilà, dites donc, vous êtes en train de nous faire l'émission, parce que j'allais vraiment poser cette question. Moi, je voudrais savoir, Ariel, entre le moment où votre mari, donc visiblement, a l'idée du fixe à couette, et le moment où ça prend forme, où il existe, et vous le présentez du coup au concours Lépine, puisqu'il faut que ça existe pour le présenter, il se passe combien de temps ?
2 ans.
Ah oui.
Entre la conception, il faut faire des protos, il faut travailler la question, les sommiers sont-ils tous universels? Il y a 1 milliard de questions qui se posent. Mmh. Et ce qui est extraordinaire, c'est que effectivement, cette médaille gagnée, ça donne un coup de boost. Parce que le concours Lépine, quand on en parle aussi bien en France, parce que nous travaillons sur toutes les régions de France, bien évidemment, et c'est un outil qui est pensé pour toutes les femmes de chambre. Mmh. Donc on va dans tous les types d'hôtels. Ah mais le concours Lépine, ah mais on connaît, mais quelle bonne idée. Donc ça a vraiment cette réputation-là. Et donc nous avons gagné Paris et Strasbourg le concours Lépine, et derrière on a monté une structure commerciale, et on a exporté et fabriqué en France. Le fixe à couette est présent au Moyen-Orient, il est présent à Macao, on a livré avec une usine française et plein d'embûches.
Et maintenant vous avez une multinationale.
Oh non, encore une TPE, mais vraiment merci au concours Lépine.
Bah écoutez, bravo à vous d'abord, surtout pour le fixe à couette. Moi j'aimerais bien en avoir un à l'occasion. On a bien compris que c'était pas encore le cas, mais pourquoi pas, parce que c'est très très ennuyeux cette affaire. C'est parfaitement exactement ce qu'on veut démontrer. En fait, il faut avoir l'idée avant les autres, il faut avoir un truc intelligent et quelque chose dont on a besoin alors qu'on l'ignorait peut-être la plupart du temps. Et c'est ce que vous avez fait, Ariel. Merci vraiment beaucoup pour discuter ensemble autour de la table. Il y a Barbara Doré, c'est bon. Là, vous avez été... je pense que vous pouvez partir, parce que la dame a dit tout le bien qu'elle pensait de vous.
Merci,
vous
Madame
êtes
Dubois.
Directrice du concours Lépine. Vous vous souveniez du fixe à couette ou pas ?
Oui, évidemment. Ah, bah, voilà, oui, Philippe Dubois, évidemment. Oui.
Et il y a Bruno Fellini qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, vous êtes essayiste, vous avez écrit Le génie humain, les archives des inventeurs de 1791 jusqu'à nos jours. C'est publié chez Grund. C'était l'année dernière. Évidemment qu'on trouve encore facilement. Bonsoir, Pascal Faure.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI, et chacun sait jusqu'à quel point vous êtes important dans cette configuration. On a bien entendu Ariel qui nous disait on dépose d'abord, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, mais c'est d'abord, et d'ailleurs je vais revenir en arrière sur ce qu'elle vient de nous dire, sinon on est copié. Pourquoi il faut déposer quelque chose de ce genre-là? Pourquoi elle dit je le dépose tous les ans, en fait? Parce que dès qu'il y a une petite modif, on redépose la modification, c'est ça l'idée?
En fait, ce qu'elle dit, c'est que lorsqu'on a un brevet, il faut le faire vivre, il faut le maintenir en vie. Et donc, chaque année, on a le choix entre payer une annuité pour maintenir en vie le brevet et avoir l'avantage qui est l'exclusivité d'exploitation, ou alors considérer que ce brevet n'a plus d'intérêt pour son titulaire. À ce moment-là, on arrête de payer l'annuité et ça devient du domaine public, c'est-à-dire que tout un chacun peut utiliser l'innovation qui est contenue dans le brevet sans avoir de droit à payer éventuellement au titulaire. Et donc, ce que dit la dame, c'est que elle maintient en vigueur son brevet parce qu'il a un intérêt, pour éviter d'être copié, parce que c'est un titre de propriété industrielle qui lui donne un droit.
L'INPI, vous nous expliquerez dans un instant ce que ça veut dire, publie après 18 mois après que le projet ait été déposé, vous nous expliquerez dans un instant ce que ça veut dire. Je voudrais qu'on finisse le tour de table. Barbara Doré, je disais, et votre voisin sera d'accord avec vous, je crois que les géotrouve-tout, ça n'existe plus, ça existe de moins en moins. En même temps, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'au fond, le mari d'Ariel en est un. Donc il reste quand même une petite niche pour les gens qui ont de l'idée, qui ne sont pas seulement de grands ingénieurs travaillant chez Stellantis ou chez ou n'importe qui d'autre, en fait. Hein.
Écoutez, oui, le géotrouve-tout nous ramène à une image d'Épinal, à une certaine culture, à une certaine génération aussi. Je pense que c'est une question de terminologie. Peut-être que ce savant fou, ce géotrouve-tout, oui, il y a quelque chose de très poétique. Je pense que la société aussi actuelle nous oblige à transformer en fait cet état-là. On ne peut plus être que dans cette jolie poésie d'invention. Je pense que tous vos invités ce soir seront, je pense, d'accord avec ça. En effet, vous demandez à un inventeur, à une inventrice d'avoir la bonne idée, mais ça ne s'arrête pas là. Et si on s'arrête là, on peut être le géotrouve-tout. Du moment où on transforme l'idée en un prototype, où on protège cette invention, on n'est plus un géotrouve-tout, on est un inventeur ou une inventrice.
Et c'est important de le dire aux gens qui nous écoutent, pour aller au concours Lépine, il ne s'agit pas d'avoir l'idée, il faut que le prototype ait été fait, et il faut que ça marche, surtout.
Et il faut surtout que ça soit protégé par un titre de propriété, également.
Avant tout, vous êtes submergé par les gens qui viennent en disant « j'ai un truc formidable » ou pas ?
Oui, alors on a deux casquettes.
Submergé, ça veut dire quoi, en fait, d'ailleurs ?
Submergé, ça veut dire quoi ? Deux casquettes. Le concours Lépine est à la fois une association et l'organisateur de ce concours. L'association est submergée par des appels « Bonjour, j'ai une invention, comment je fais ?» Et la partie concours est submergée aussi de candidatures. Alors, submergée, toute proportion gardée, on a 250 inventions en lice. À peu près, a priori, on a dû recevoir 350 ou 400 demandes de candidature.
Pardon, j'ai oublié votre prénom, Bruno Fulini, excusez-moi, c'est ce que je cherchais désespérément. Vous, l'historien, ce que vous dites, c'est qu'il y a eu une époque, et c'est le cas, on peut l'imaginer, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, où dans la philosophie, il y avait l'idée qu'on va améliorer le sort de l'homme, donc on va l'aider à faire plein de choses, et c'est de là que viennent les inventions. Moi, je me demande si, au fond, cet état d'esprit 19e n'est pas en train d'être rattrapé aujourd'hui, parce qu'on est dans d'autres préoccupations, réchauffement climatique, etc. Et que là aussi, dans les inventions d'aujourd'hui, on a envie d'améliorer le sort de l'homme.
Le point commun, c'est que l'inventeur, c'est quelqu'un qui veut changer le monde, qui a une idée grâce à laquelle un aspect de notre quotidien va être révolutionné. Disons que les hommes du temps de la Révolution ou au 19e siècle étaient animés par une véritable foi dans le progrès. Il y avait l'idée que la machine, le progrès
allait
sauver le monde. Il y avait cette dimension utopique. Et puis après, les applications militaires de certaines inventions, comme l'aviation par exemple. Et puis avec les craintes actuelles sur la nature, l'environnement, l'esprit n'est plus exactement le même. Il y a toujours des inventions, mais des inventions avec l'idée plutôt de protéger l'existant, en quelque sorte. Il n'y a pas très longtemps, il y a une quinzaine d'années, je crois, au concours Lépine, j'ai vu qu'avait été primé un héliodrome, c'est-à-dire un habitat fonctionnant entièrement au soleil. Donc c'est à la fois très utopique et très dans l'air du temps.
Et en même temps, ce que je trouve génial, c'est que si la personne qui a inventé l'héliodrome l'avait présenté il y a 15 ans, c'était il y a combien de temps ?
Il y a
20 ans, il y a 25 ans, peut-être qu'on ne l'aurait pas vu, en fait. Parce que si ça ne répond pas à l'époque et au moment, on le rate, non ? On ne le voit pas ? Qu'est-ce que vous en dites, Barbara ?
Dans les archives de l'INPI, il y a quelque chose d'assez proche, et en même temps différent, assez génial. C'est dans les années 20, il y a un siècle, un inventeur qui avait mis au point des maisons sur pivot. C'est-à-dire que c'était un niçois, et donc la maison devait toujours faire face au soleil, comme un tournesol. Donc c'était une autre façon de capter, finalement, la chaleur du soleil, mais dans une préoccupation complètement différente, évidemment.
Le bon moment et le bon endroit aussi pour l'invention. Je voudrais qu'on écoute Annie qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en Charente-Maritime, Annie, on vous écoute.
Oui. Bon, bah, écoutez, je ne suis absolument pas ingénieure, donc je ne pourrais pas faire un prototype ni un croquis.
Ah bah, raccrochez alors.
Je me suis fait un petit croquis vague, mais qui n'est pas de type ingénieur. Moi, je pensais que les voitures électriques qu'on fait actuellement ne sont pas du tout autonomes, en fait. Puisque ça met très longtemps pour recharger, sauf à mettre des prix pas possibles, et elles sont très lourdes à cause des batteries, etc. Moi, je pensais à proposer mon idée à quelqu'un qui pourrait faire le prototype. Moi, je suis pas du tout, ce qui m'intéresse, c'est pas les droits d'auteur, ce qui m'intéresse, c'est qu'on arrive à se sortir d'une situation insensée. Donc, une voiture qui serait, techniquement parlant, possiblement tout à fait autonome. C'est-à-dire que vous avez une petite voiture, il y a deux batteries dedans, c'est pas forcément des trucs très lourds, bon, les batteries c'est encore un autre problème en ce qui concerne les terres rares et tout ça, mais enfin bon, bref. Et il y a donc des batteries, il y a sur le toit protégée, bien entendu, par une grille, etc. Deux éoliennes à axe vertical. Alors, les éoliennes à axe vertical, je sais que c'est pas très connu. En général, personne ne connaît ça, mais c'est la seule chose qui soit possible dans ce cas-là, parce que l'avantage, c'est que ça tourne quand on roule, des panneaux solaires et, pour démarrer la chose, un pédalier.
Bah écoutez, Annie, voilà. Si un ingénieur vous écoute, on saura lui donner votre numéro, c'est promis. Moi, je vous remercie, Annie, merci de nous écouter, on vous embrasse. Moi, il y a deux choses qui m'intéressent dans ce que dit Annie. D'abord, c'est effectivement, trouvez-moi un ingénieur pour faire quelque chose. Ce qui caractérise, j'imagine, notre époque aujourd'hui sur une voiture, par exemple, vous me direz si je me trompe, Pascal Faure, vous, monsieur Inpi, il n'y a pas un inventeur sur une voiture, il y en a combien ? Il y en a peut-être, j'en sais rien moi, 200, 300, 500, peut-être 1000. Chaque pièce aujourd'hui est l'objet d'une invention déposée chez vous, non ?
Oui, oui, absolument. C'est un bon exemple. Le domaine de l'automobile, c'est typiquement... Vous voyez, c'est la différence avec l'industrie du médicament. Dans l'automobile, il y a une myriade de brevets. Chaque petit détail compte. Vous améliorez à la marge quelque chose, c'est breveté. Et donc, il y a, si vous voulez, un champ de mine de brevets qui fait que les constructeurs et leurs équipementiers se protègent. C'est très différent, par exemple, du domaine de la pharmacie, où là, vous avez la molécule qui traite un problème et vous protégez cette molécule-là. Mais c'est aussi le charme des brevets d'avoir justement une stratégie qui permet de toujours avoir ce qui permet de protéger le petit avantage technologique qu'on a.
Est-ce qu'on dépose parfois quelque chose dont on sait qu'il n'y en a pas l'usage là, mais il y aura forcément un usage à un moment parce que le progrès aidant, on saura, et donc on dépose maintenant, avant que quelqu'un d'autre ait l'idée, même si on sait que pour l'instant on ne peut pas s'en servir. Ça existe ça ou pas ?
Oui, bien sûr. Ben, c'est-à-dire que quand vous avez une idée nouvelle, une invention, alors il faut pour que ça soit brevetable, il faut que ça se réponde à un problème technique. Hein, okay. C'est-à-dire que c'est pas juste une idée en l'air, c'est pas une méthode. C'est effectivement.
Donc Annie peut pas breveter sa voiture là.
Alors il faudrait creuser effectivement avec les ingénieurs. Il faudrait aussi s'assurer que le rendement fait que les éoliennes et les capteurs solaires récupèrent assez d'énergie pour faire tourner le moteur. Mais bon, c'est les ingénieurs sauront calculer ça. Et donc, pour revenir à ce que l'on disait...
On était dans les multiples, dans l'idée d'avoir un...
Oui,
un,
d'anticiper, de déposer avant.
Mais
bien
avant
sûr, et justement, le principe des brevets, c'est que pour être brevetable, il faut aussi que ça soit nouveau. Donc déjà, quand vous avez l'idée de quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas été divulgué, parce que si ça a été divulgué, c'est plus protégeable. Au contraire, il vaut mieux le protéger. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'au moment où vous déposez votre brevet, il y a toute une procédure qui s'enclenche. Et si, durant cette procédure, il s'avère que finalement, l'idée, vous la considérez comme moins intéressante, vous pouvez arrêter le processus. Mais par contre, comme tout est fondé sur l'antériorité, mieux vaut déposer tout de suite, le plus vite possible.
Bruno Fulini, vous, monsieur l'historien, ça existe ça dans l'histoire, des choses qu'on met de côté en quelque sorte et on se dit, oula, ça on sait faire, on va pouvoir l'utiliser maintenant ?
Oui, souvent l'inventeur est celui qui a un temps d'avance et leur drame, c'est pour ça souvent qu'on se moque d'eux, qu'on
les
prend
pour des
géotrouve-tout.
Des fois, quand on a raison trop tôt, c'est qu'on a tort. Hein.
Voilà, c'est que les gens ne comprennent pas. Il y a un exemple illustre, c'est Denis Papin, donc c'était même avant l'invention du brevet. Lui, il imagine le piston et la machine à vapeur dès l'an 1690. Et personne ne comprend qu'il a dans la tête. Il va falloir des décennies pour qu'on s'intéresse à ses travaux. Il avait lui-même réalisé un premier bateau à vapeur qui a été mis en pièces par des mariniers qui voyaient une invention diabolique. Donc, si vous voulez, et dans l'histoire des brevets, on trouve parfois aussi des brevets qui sont déposés dans une intention, mais qui vont être utiles pour tout à fait autre chose. Le cas d'école, par exemple, c'est Scott de Martinville. Dans les archives de l'INPI, j'ai vu son invention. Au départ, c'était quelqu'un un utopiste qui cherchait une sorte de langue universelle ou une écriture universelle valable pour toutes les langues. Et il s'est dit, c'est simple, il suffit de mettre une espèce de cornet avec un crin de cheval et ça prend les ondulations de la voix, quelle que soit la langue, et ça dessine les sons. Mais on est sous le Second Empire, il y a plus de 150 ans, il a créé la première bande-son de l'histoire. Et aujourd'hui, avec cette bande-son conservée à l'INPI, on peut entendre un homme du Second Empire chanter au clair de la lune. Mais lui n'était pas du tout dans l'idée d'inventer la bande-son. Lui cherchait l'écriture universelle. Et néanmoins, il a été pionnier.
Bonsoir Marie.
Allô, oui.
On vous écoute Marie, allez-y.
Donc j'habite dans le Puy-de-Dôme, j'ai 50 ans maintenant et en octobre 2020, j'ai déposé un certificat d'utilité pour Un dispositif de réalisation d'images animées que j'ai ensuite appelé l'ombrellotrope. En gros, c'est une ombrelle qui fait du cinéma quand on la tourne en plein air devant un smartphone.
Ok. Et est-ce que vous avez essayé? Vous l'avez présenté? Où est-ce que vous en êtes?
Ah oui, j'en suis. J'ai essayé d'intéresser des fabricants français puisque le certificat d'utilité, enfin tous les brevets doivent être compréhensibles par l'homme de métier. Je me suis d'abord beaucoup posé la question de ce que c'était qu'un homme de métier. Mais enfin, vous êtes une femme, vous parlez à un homme en face de vous, lui doit savoir ce que c'est que le métier d'homme. Mais bon, cet homme de métier, admettons, c'était un fabricant de parapluies. Moi, je suis artiste au départ. Artiste de cinéma d'animation, et c'est depuis mon expertise de dessin animé que j'ai trouvé, d'après moi, le moyen le plus rapide pour faire du dessin animé en plein air.
Eh ben écoutez, vous vouliez ajouter quelque chose?
Vive les révolutions des parapluies.
Absolument. Marie, merci beaucoup. Quand j'entends Barbara Doré, quand j'entends tous ces gens, c'est drôle et c'est bien. Enfin, y en a des idées, hein. Y en a partout et y en a tout le temps. À partir de quel moment, vous nous avez parlé tout à l'heure du prototype, quels sont les autres critères pour pouvoir rentrer dans la case Lépine? Comment ça marche en fait pour que vous puissiez prendre en considération ce que fait Marie ou d'autres?
Écoutez, la première sélection se fait de manière très administrative. C'est avez-vous une invention protégée par un titre de propriété?
Est-ce qu'elle marche?
Voilà. Est-ce que vous avez un prototype ou une maquette à minima? Chaque inventeur et chaque inventrice sur un instant T n'est pas au même stade de production ou de création de son invention. Donc on peut retrouver aussi des inventeurs qui commercialisent déjà parce qu'il y a très peu d'industrialisation. Ça ne demande pas un temps fou pour pouvoir industrialiser. Donc on a différents stades. L'idée vraiment que l'on retient, c'est de se dire, administrativement, entre guillemets, ça rentre au concours Lépine. Éthiquement et moralement aussi, parce que notre volonté depuis 123 ans, d'améliorer la société, je pense, par ses inventions, de pousser ses inventeurs et ses inventrices dans une amélioration de l'humanité. Et comme ils sont
donc
dans
si
une...
j'ai amélioré une arme, je ne viens pas au concours Lépine.
Donc c'est ça, c'est on vous expliquera qu'éthiquement et moralement, vous pourrez aller très certainement dans d'autres lieux et contacter d'autres personnes, mais pas pour le concours Lépine, en effet.
Est-ce que ça arrive, Bruno Fellini, que on invente la même chose à deux endroits différents, mais à une période à peu près similaire?
Oui, il y a un cas très classique, c'est la photographie couleur, puisque le poète Charles Cros et l'inventeur du Huron ont eu exactement la même idée au même moment. Et simplement, du Huron, lui, est passé au stade pratique, et dans son dossier, il y a la toute première photo couleur. Il a réussi, alors ils avaient tous les deux eu la même idée, de décomposer en trois couleurs et de superposer ensuite. Et vraiment, c'est exactement la même année. Tous les deux déposent un brevet. Alors, dans un premier temps, Charles Cros voulait poursuivre l'autre et puis s'est rendu compte qu'en fait, son antagoniste était de parfaite bonne foi. Mmh. Et donc, en honnête homme, il a retiré sa
plainte. Après, ce que je trouve fascinant, c'est pourquoi est-ce que on se dit qu'on a besoin de la même chose au même moment? Enfin, il y a deux endroits différents. Même, je pense, j'en sais rien, même à l'aviation, en fait, entre les frères Wright et Clément Ader. Enfin, qu'est-ce qui... Il n'y a pas beaucoup d'années là-dedans. On est en train d'essayer d'inventer la même chose au même moment. Ça veut dire que toutes les sociétés et tous les continents ont besoin de la même chose au même moment. C'est quand même assez fascinant.
D'abord, il y a un air du temps. Et puis, il est rare qu'on invente quelque chose à partir de rien. Mmh. Souvent, on invente quelque chose à partir d'un existant. En 1816, apparaît pour la première fois un deux-roues, la Drésienne, qui est propulsé à coups de talons. À un moment, un Français, Sourisseau, a l'idée de rajouter ce qu'il appelle la manivelle pédiforce, c'est-à-dire un pédalier. Et à partir de là, tout le monde, sur cette idée d'un cadre mu par des pédales, va imaginer toutes sortes de choses. Et on a des dizaines et des dizaines de brevets de vélos, puis de vélos à moteur, puis de tricycles, puis d'automobiles. Donc vous voyez, toutes ces inventions procèdent au départ de la Drésienne, mais qui va être améliorée, transformée, motorisée, stabilisée. C'est-à-dire qu'on n'invente pas à partir de rien, les inventeurs s'observent beaucoup entre eux. Ça c'est vraiment, vraiment frappant, cette inspiration. C'est un peu comme les écrivains, finalement, il y a des écoles.
Et des moments et des périodes. Bonsoir Lionel.
Bonsoir.
On vous écoute.
Moi j'avais un petit témoignage et quelque part un regret peut-être. J'avais inventé dans ma tête il y a une trentaine d'années, avant que ça existe en tout cas de façon industrielle, un petit procédé pour fermer de façon étanche les emballages de type tétrabrique qui contiennent tous les liquides type lait, soupe, etc. Et puis le jour où c'est sorti, bien sûr, je me suis dit, ben merde, quoi.
Ouais.
Et à l'époque, je connaissais vaguement quelqu'un qui connaissait quelqu'un à l'INPI et qui m'avait dit, si je me souviens, qu'il fallait déposer un process industriel plus qu'une idée, qu'une simple idée n'était pas brevetable. Et en entendant votre émission tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait qu'il fallait au moins créer un prototype.
Ouais.
Moi, j'aurais pu faire un prototype, mais je disais à votre collègue tout à l'heure que je l'aurais fait comme on fait une maquette, c'est-à-dire avec des ciseaux, de la colle, et puis avec mes petits doigts, mais je n'avais aucune capacité d'ingénierie, de projection d'ingénierie pour le concevoir de façon industrielle. Donc je m'étais arrêté là, et puis aujourd'hui je me dis que j'aurais peut-être pu être millionnaire en vu le nombre de milliards d'emballages qui sortent de ce type tous les jours.
Trop voilà. Bête, trop dommage.
J'ai quand même une question, c'est à quel moment finalement on peut ou pas déposer quelque chose, parce que si on ne peut pas déposer juste l'idée seule, est-ce qu'un prototype de quelque chose qui est fabriqué mais qui n'est pas fabriqué dans les règles de l'industrie, est-ce que c'est valable?
Mais on va poser la question, Pascal Faure, monsieur directeur général de l'INPI.
Oui, alors le il faut voir ce qu'on appelle idée et prototype, mais c'est vrai que dans un brevet, il faut décrire exactement l'invention et le procédé qui permet
de fabriquer l'invention,
de réaliser,
ouais,
voilà. Okay. Et même, normalement, quand on lit un brevet, on doit être capable de reproduire ce qui est dans l'invention. C'est bien ça le but des brevets.
Mmh.
Donc là, dans le cas particulier, je pense que ce monsieur aurait très bien pu déposer un brevet à un stade suffisant de conception de son invention, sans même avoir réalisé physiquement le
prototype. Sauf qu'il faut être sûr que c'est réalisable, donc il faut un moment, il peut pas juste le dessiner en disant ce serait formidable, on ferait un bouchon, il y aurait une petite vis et...
S'il le décrit avec précision, il est obligé d'avoir construit la machine.
Arrêtez-vous parce que vous êtes en train de lui donner encore plus de regrets à ce pauvre Lionel. Et justement d'ailleurs, un peu connexe, on a Vanessa sur WhatsApp qui dit « Le brevet, c'est vraiment le summum de la marchandisation des savoirs. Marie Curie, dit-elle, avait décidé de ne pas déposer son invention sur l'extraction du radium. Elle a vécu pauvre et misérable toute sa vie. Et voilà comment les sociétés traitent leurs savants. » Quand on dit que le brevet, c'est la marchandisation des savoirs, ça vous inspire quoi, Bruno Fulini, qui levait le doigt.
Le brevet, c'est effectivement un titre de propriété. Mais d'abord, dans la loi révolutionnaire qui a créé les brevets en 1791, un article prévoit qu'on fasse don de son invention à l'humanité. Et c'est comme ça que Appert, par exemple, qui a juste inventé la boîte de conserve, est mort dans la misère parce qu'il n'a jamais voulu tirer profit de son invention. Et il y a de nombreux exemples d'inventeurs qui soit ont fait don de leur invention, soit se sont fait barboter leur idée parce qu'un brevet a été déposé avant, soit souvent n'ont pas su la développer. Donc, c'est un titre de propriété, ça ne fait pas forcément de vous un milliardaire. Hein. Après, il y a des success stories dans la vie des inventeurs, mais il y a aussi des drames, des échecs et beaucoup d'existences qui se terminent un peu dans l'obscurité et la pauvreté.
Il y a Eve qui nous dit « J'ai déposé un brevet voici 15 ans à l'INPI, la paperasserie est kafkaïenne et le prix pour un brevet français est abordable, pour un brevet international ça coûte la peau des fesses », nous dit Eve. On peut avoir une idée des prix ou pas si j'invente je sais pas, un truc pour mes lunettes là, comment ça va coûter ?
Oui, un brevet, d'abord c'est pas si cher que ça, contrairement aux idées reçues, entre le dépôt et la délivrance, ça coûte à peu près 600 €, un brevet, en termes de redevances. Si vous faites appel, bien sûr, à un conseil en propriété industrielle qui va vous aider à rédiger le brevet, c'est souvent nécessaire, ça coûte quelques milliers d'euros. Ça dépend de la complexité de ce que vous déposez. Mais ce qu'il faut voir, c'est que quand vous avez une bonne idée et qui potentiellement peut vous rapporter des subsides, parce que si elle est industrialisée, vous avez derrière des revenus, il faut voir que le coût d'investissement dans le brevet est faible par rapport à ce que ça peut vous rapporter.
Est-ce que ça peut rapporter si ça marche, ouais.
Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, par rapport à ce que disait la personne d'avant, en parlant de Marie Curie, je pense qu'il faut préciser un petit peu les choses, parce que, dans le droit des brevets, il y a quand même un équilibre, je trouve, très subtil entre l'intérêt particulier de l'inventeur et l'intérêt général.
Mmh.
Et on le dit pas assez. Le brevet, qu'est-ce que ça donne ? Ça ne met pas au secret l'invention, ça donne une exclusivité d'exploitation de l'invention pendant au plus 20 ans pour celui qui l'a trouvé, cette invention. Et ça, c'est assez normal, parce que pour innover, il faut prendre des risques, il faut investir, et il est normal que celui qui a pris des risques, qui investit et qui réussit, puisse avoir un retour sur son investissement, sinon plus personne n'investira et plus personne ne prendra de risques. Et là, du coup, on freinera l'innovation. Et puis deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous déposez un brevet, donc vous décrivez dans le brevet exactement ce qui constitue votre innovation, et tout ceci est publié intégralement au bout de 18 mois. Mmh. C'est-à-dire que tout le savoir que vous avez conçu, que vous avez créé pour faire l'invention, est rendu public, y compris pour vos concurrents. Alors, et c'est donc là où vous avez, voyez, un équilibre entre l'intérêt particulier, vous avez l'exclusivité d'exploitation, mais tout le monde a la connaissance de ce que vous avez fait et peut, vous, pardon pour l'expression, vous challenger.
Alors justement,
et faire mieux.
Et puisqu'on y est, juste rapidement pour expliquer ça, au bout de 18 mois, j'imagine que je n'ai pas le droit de piquer l'idée, mais si j'améliore l'idée, elle est à moi. En fait, c'est ça que ça veut dire.
Eh ben, si vous, à partir du savoir qui est rendu public, si vous l'améliorez, que vous amenez de la nouveauté et de l'inventivité, à ce moment-là, vous pouvez breveter ce que vous avez créé en plus, et vous aurez un brevet sur voilà, la valeur ajoutée nouvelle que vous avez apportée.
Donc c'est une lutte de chaque instant. On parle d'invention ce soir et d'innovation au téléphone. Sonne avec Pascal Faure, qui est le directeur général de l'INPI, avec Bruno Fellini, qui est historien et essayiste, avec Barbara Doré, qui est directrice du concours L'Épine, et avec Fred, c'est une question pour vous, Barbara Doré. Bonsoir, bonsoir Fred.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Merci pour vos émissions. Oui, bah, j'ai fait de l'informatique, moi, ça fait plus de 40 ans. Et à l'époque, j'avais inventé une petite routine sur des bases pour imprimer des formulaires de prêt à la bibliothèque de l'université, où il fallait remplir trois cases du bulletin avec les mêmes données, etc. Je les imprimais directement. Quand je suis arrivé avec mon bulletin de prêt, le mec, il hallucinait, il ne comprenait pas comment c'était possible. Et donc j'ai continué comme ça en informatique à faire plein de petites routines, de petits trucs comme ça sympas, qui rendaient bien service. J'ai jamais eu la moindre fois l'idée de breveter ou de commercialiser quoi que ce soit.
Dommage, encore une fois,
si
dommage.
Ça existe au niveau Lepine ou autre. Non, mais c'est bon, j'ai monté une boîte, je gagne bien ma vie, j'ai pas de soucis.
bah, tant mieux pour vous, mais en même temps, c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a des. Barbara Doré, est-ce que la catégorie informatique, ça existe au concours Lepine ?
Oui, absolument. Alors, elle existe indirectement par l'IoT, c'est-à-dire l'intelligence des objets obligatoirement. On peut effectivement avoir des inventions connectées. Nous avons d'ailleurs un secteur qui s'appelle l'univers connecté. Où effectivement vous avez la partie brevetable qui est sur l'objet et vous avez une partie plus intellectuelle, de propriété intellectuelle et non industrielle, sur la partie potentiellement logicielle, puisque il me semble bien que les logiciels ne sont pas brevetables. Oui, on a effectivement toute une zone d'invention connectée. Et ça aussi, ça fait partie des dernières innovations qui arrivent sur le concours Lépine. Parce que j'entends effectivement beaucoup de choses autour de l'invention, mais je tiens à dire aussi que l'invention, c'est fun. Des inventeurs et des inventrices réussissent. Un passage concours Lépine, en tout cas une mise en lumière de l'invention, promet quand même aux inventeurs le passage à l'industrialisation.
Il paraît que la moitié à peu près des gens qui remportent des prix au concours Lépine peuvent
c'est un vrai
industrialiser.
Tremplin. Ouais. Oui, on est à une industrialisation d'un cas sur deux, donc c'est énorme sur un concours qui ne dure que 12 jours.
Pourquoi un logiciel c'est pas brevetable, Pascal Faure ?
Il y a eu un débat il y a quelques années et il a été décidé en Europe de ne pas protéger par le brevet le logiciel, mais on peut le protéger par le droit d'auteur, donc c'est quand même protégé, hein, mais c'est pas le même instrument. Par contre, une composante logicielle, comme l'a dit Barbara Doré, d'un ensemble plus grand, cet ensemble, lui, est brevetable, bien sûr.
Comment s'appelle-t-elle ? Comment s'appelle-t-il ?
Oui.
Silver, bonsoir.
Oui.
On vous
oui,
écoute.
Bonsoir, merci pour l'émission. Bonsoir à tous. Donc j'avais une question par rapport au brevet déposé. Je sais qu'il existe un certain nombre de brevets déposés qui pourraient aider grandement la planète. Par exemple, des moteurs non polluants ou beaucoup moins polluants. Et je voulais savoir dans quelle mesure il était possible de pouvoir accéder à ces brevets, de les rendre libres, vu l'urgence climatique. Je pense que ça pourrait être intéressant.
Merci Silver pour votre question. Il y a beaucoup de questions autour de ça qui semblent dire qu'on a déjà inventé 1000 choses qui pourraient nous servir et qui aujourd'hui seraient indispensables et qu'en fait on les cache et qu'il faudrait les ouvrir façon open source. C'est une légende urbaine, Pascal Faure, ou c'est une réalité, ce que nous dit Silver ?
C'est un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire que le titulaire du brevet, s'il a un brevet, il a intérêt à le valoriser. Donc a priori, la démarche d'industrialisation est assez naturelle. Si elle ne se fait pas, c'est peut-être qu'il y a d'autres technologies qui sont plus efficaces aujourd'hui. Peut-être que demain, les brevets en question auront un intérêt économique plus grand. Et puis, c'est peut-être qu'il n'y a pas les capacités industrielles pour faire. Mais de toute façon, on peut accéder à la connaissance, encore une fois, qui est dans le brevet. La connaissance est libre, puisque le brevet est publié à 18 mois. Et donc, si quelqu'un veut utiliser et améliorer, alors évidemment, si utiliser à l'identique, il faut l'accord de l'inventeur, sauf s'il renonce à ses droits, ce qu'il peut toujours faire. Sinon, eh bien, à ce moment-là, il faut essayer d'améliorer le procédé ou négocier avec le titulaire. Mais c'est une démarche d'industrialisation assez normale, je dirais. Voilà, il faut réunir des fonds, des industriels. C'est plutôt comme ça que les choses débouchent sur des produits industriels.
Barbara Doré.
Et dans cette droite lignée, pour répondre effectivement à votre auditeur, on a par exemple cette année au concours Lépine, un vélo qui s'appelle le vélo Pipop. L'inventeur a mis au point ce vélo électrique, alors jusque-là on se dit ok. C'est un vélo électrique, comme un peu souvent au concours Lépine, on a l'impression que c'est un stylo à billes, mais si c'est au concours Lépine, certainement parce que c'est une fusée. donc, passer ce petit sourire. Vélo électrique, qui dit vélo électrique, batterie. Qui dit généralement batterie lithium et recharge. L'inventeur est parti du principe que on a un souci avec le lithium, on a des évolutions, on arrive maintenant à se dire que oui, le lithium c'est génial, mais il y a beaucoup de mais autour de qu'allons-nous faire de ce lithium une fois utilisé, qu'allons-nous faire de ces batteries. Donc il a mis au point un vélo électrique qui ne se recharge plus et qui utilise des supercondensateurs pour pouvoir stocker l'énergie. Donc, vous pédalez, vous freinez, vous stockez l'énergie, et vous n'avez plus de batterie lithium, et le vélo n'est pas à recharger. Donc, c'est l'évolution permanente et perpétuelle de quelque chose qui a existé, et on utilise évidemment encore des batteries lithium, mais un inventeur, à ce moment-là, s'est dit, là, on a un souci, je vais répondre à cette problématique et trouver une solution.
Moi, je suis épatée par ce chiffre, quand même, qui dit que la moitié des prix et l'épine arrivent à un projet industriel à un moment. La moitié, c'est beaucoup. C'est vraiment.
C'est énorme, mais ça, c'est aussi pour vous dire que cette belle image poétique du géotrouve-tout n'est plus actuel, parce que l'inventeur, là aussi, et je pense qu'on peut juste peut-être faire une petite parenthèse dessus, un inventeur doit avoir l'idée, une inventrice doit avoir l'idée. Vous voulez donc protéger votre invention. Vous avez par exemple BPI France qui peut vous fournir des aides. Sauf que ces aides-là sont faites auprès d'une structure et non pas d'un inventeur indépendant. Il vous faut un statut. Donc beaucoup maintenant d'inventeurs créent leur société pour pouvoir développer leur invention.
Vous avez un mot que vous avez prononcé a accroché mon oreille, Bruno Fellini, inventeur, inventrice. Des inventrices, vous en avez beaucoup, mais la différence est quand même avec les inventeurs, ou en tout cas, est-ce que ce sont les inventeurs qu'aujourd'hui on met en avant plus que les inventrices ?
Alors aujourd'hui, on a plutôt tendance à mettre en avant les inventrices. Dans l'histoire, elles sont minoritaires, mais elles ont toujours été là. Et pas uniquement, mais bien sûr, il y en a eu beaucoup dans le domaine de la mode, par exemple. La veuve Cadol qui a inventé le soutien-gorge pour libérer les femmes du corset, sans imaginer qu'un jour on brûlerait le soutien-gorge considéré comme oppressif. Et le tout premier brevet déposé par une femme n'a rien à voir avec la mode, c'est juste le brevet du parachute. C'est-à-dire qu'au tout début du 19e siècle, ça doit être en 1802 de mémoire, c'est une aérostière, donc une femme qui monte en ballon dans la nacelle et qui a peur de mourir si jamais, évidemment, le ballon se dégonfle. Et donc, avec son mari, elle a imaginé un parachute pour comme moyen de secours et elle dépose le brevet.
Aujourd'hui, Barbara Doré, il y a autant d'inventrices que d'inventeurs au concours Lépine. Vous avez vu bouger ces lignes-là ou pas encore ?
Alors, non. voilà. Non, on y travaille beaucoup. Chaque année, c'est quelque chose que je déplore réellement et je m'exprime très souvent sur le sujet. De plus en plus, malgré tout, de femmes sont présentes. Mais évidemment, nous n'avons absolument pas l'équilibre parfait. Maintenant, il faut, je pense, que les lignes bougent dès le début de l'invention, dès le début du financement. On avait discuté avec certaines femmes et effectivement, femmes inventrices nous ont dit, mais voilà, dans les étapes où ça bloque, c'est à idée égale, si je suis une femme et que je demande un financement, eh ben, on va l'accorder à l'homme. Si je suis une femme et si je vais voir un ingénieur pour faire réaliser un prototype, eh ben, ça va être un peu plus compliqué. Donc, il faut travailler en amont tout ce développement-là avec tous les acteurs, qu'ils soient économiques ou industriels, pour écouter les femmes.
Voilà, inventrice, inventeur, allez-y, à vos idées. Bah, d'ailleurs, le résultat du concours Lépine, c'est le 12 mai, c'est juste à la fin de la Foire de Paris.
Le 10.
Le 10, pardon, excusez-moi. Bah, voyez, vous avez bien fait de venir. Merci beaucoup, merci à tous les trois, merci à tous pour vos nombreux appels. La question des petits bateaux ce soir, c'est celle de Quentin qui a 10 ans.
Je voudrais savoir si les oiseaux urinent séparément ou s'ils font tout mélanger. Et alors, comment ça se passe dans leur ventre? Merci. Au revoir.
Eh ben dites donc, elle est compliquée cette question.
LCL présente Angle Neuf, la filiale immobilière de LCL.
Devine où j'ai trouvé mon appart.
Bah, une agence immobilière, une petite annonce.
Eh non, en allant voir mon conseiller LCL. Avec Angle Neuf, LCL propose aussi de l'immobilier.
Avec Angle Neuf, la filiale immobilière de LCL, il est possible de trouver votre appart et son financement au même endroit. LCL, ma vie, ma ville, ma banque. LCL est élu